Bonjour à tous. Très très heureux de vous retrouver après une période qu'on a tous traversée en étant chacun derrière un écran. Je suis content de vous voir directement. Vous allez voir que ces journées de l'économie vont être en prise totale avec les interrogations qu'on a sur quelle sortie de crise de la pandémie. Je pense qu'on a vraiment construit un programme qui doit répondre à beaucoup des questions que vous pouvez avoir. Donc je vais être très rapide parce qu'on a juste une heure là pour présenter les résultats du sondage. Avec moi, Emeline Baume, qui est la première vice-présidente de la métropole de Lyon à l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et la commande publique. Andrea Jones, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et Pierre-Olivier, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. On va tout de suite commencer par un micro-trottoir, comme on le fait tous les ans, où on aura les premières impressions des Français sur la situation qu'ils ont vécue, qu'ils sont en train de vivre, et on réagira rapidement à ce micro-trottoir qui a été commandé par la Banque de France.
Ça a été des bonnes mesures. Dans le sens où c'était une situation absolument inédite. Ça a fait grand débat, donc est-ce que ça a été bien géré? Est-ce qu'il y a eu des aides pour tout le monde? Moi, je pense que ça a été fait au mieux.
Ça me paraissait assez bon, car finalement, au résultat, contrairement à ce qu'on a annoncé, il y a quand même peu de faillites, peu de fermetures.
Je ne connais pas trop d'entreprises qui ont vraiment souffert plus que ça, en tout cas dans mon cercle, quoi.
Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses qui ont pu passer ce cap, qui était quand même très long.
Si on avait eu un paquet de monde au chômage, enfin, le pouvoir d'achat n'aurait pas été le même. Enfin, les gens n'auraient pas eu confiance non plus en l'avenir, quoi. Donc la consommation, elle aurait été largement impactée.
Les aides aux entreprises pour éviter qu'ils ferment. Bon, même s'il y en a beaucoup qui ont fermé, ça a aidé beaucoup d'entreprises.
Le chômage partiel, ça a sûrement été une des aides qui a été le plus efficace, peut-être, pour éviter trop de casse.
Heureusement que ces mesures ont été là, parce qu'elles ont soutenu l'activité économique à côté.
A pris conscience, même moi en tant que citoyenne, de l'importance d'avoir un corps médical formé, d'avoir du matériel aussi, de la surface, de la capacité. Donc je pense que ça, c'est une grande priorité de manière générale sur les années à venir, sur les crises qu'on pourra peut-être rencontrer plus tard.
En France, on s'était vraiment, à mon avis, orienté vers beaucoup de services et peu d'industrie. Et je pense que l'industrie a toute sa place quand on se rend compte d'une crise sanitaire de cette ampleur.
Relocaliser, d'avoir l'innovation ici, le savoir-faire ici. La cervelle en ébullition, il faut qu'elle reste ici.
L'emploi des jeunes, c'est très important. Il faut qu'il y ait de la suite après nous.
Pour relancer l'activité économique, c'est peut-être baisser peut-être un peu les taxes et faire attention à la hausse des prix tout de suite, quoi. Voilà. De faire en sorte que la consommation puisse être soutenue.
Depuis des décennies, c'est une litanie. Apparemment, personne n'a encore trouvé la solution. C'est une fuite en avant, ces dépenses publiques. Mais très honnêtement, à mon niveau simple, je ne connais pas la recette.
À moyen et à long terme, qu'est-ce que ça va pouvoir engendrer sur notre société, nos impôts, nos taxes, et ça, c'est plutôt là où moi, je me pose une vraie question.
Forcément, il faut réduire la dette, mais à quel prix, à quel coût et comment, c'est ça la plus grande question.
Je pense que c'est normal qu'on soit un pays endetté, surtout si on a envie de mettre en œuvre certaines aides, certaines mesures, certaines nouveautés, d'innover dans son pays. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre. Il y a une vraie prise de conscience citoyenne sur comment on consomme et l'impact que ça peut avoir, que ce soit environnemental, économique ou même social.
Ah, je pense que les gens consomment différemment.
Au niveau de la consommation, oui, j'ai l'impression qu'on est plus consensuel et puis on est plus local.
Au niveau du climat social, toujours plus d'attentes, mais qui existaient déjà avant la crise. Hein, donc peut-être que ça a accentué les attentes des gens.
Les gens sont retournés à leurs habitudes premières et qu'il y a moins le sens du collectif.
On a eu l'espoir qu'il y ait un vrai changement social à ce niveau-là et non.
C'est du chacun pour soi, malgré des apparences de collectivité. Et je crois que cet égoïsme est en train de s'accentuer.
On avait fait le choix un peu d'une décroissance, de produire moins, de produire mieux, de faire plus de qualité, de vendre en direct et tout ça. La crise a conforté nos choix.
Avant, je cherchais plus un métier qui avait beaucoup de débouchés, où je pouvais avoir une carrière qui évoluerait bien, avoir un bon statut. Et avec la crise, je me suis dit, bah, peut-être que ça, c'est pas si important que ça, et que bah, le bien-être, et justement, que ça ait du sens de me lever le matin et avoir quelque chose qui me fasse plaisir et qui donne du sens à ma vie. Ouais.
Moi, le plus grand défi de demain, c'est vraiment l'écologie.
Je pense que c'est de sensibiliser les gens par rapport à l'environnement.
C'est une priorité, c'est le monde dans lequel on vit, c'est nos villes, c'est l'air qu'on respire, c'est l'avenir qu'on laisse à nos enfants, à nos petits-enfants.
Qu'il y ait quand même un accès à la culture et scolaire qui soit plus égalitaire.
Pour moi, il y a une fracture digitale, ça c'est sûr. C'est vraiment une norme d'avoir son ordinateur, de ne pas avoir internet, d'ordinateur, de téléphone qui est à soi. C'est compliqué, et puis j'ai d'autres amis qui sont dans des logements où l'accès internet est pas facile. Forcément, bah, on accumule plein de lacunes.
Tout ce qui tourne autour de la dépendance. Ouais. Ouais, ça c'est un défi à relever. Après, je pense qu'on devrait trouver quand même d'autres solutions que ces EHPAD. Peut-être des colocations, les gens restent plus chez eux, que ça coûte moins cher. Parce que les EHPAD, ça coûte cher aux familles, à l'État, et les gens sont pas contents dedans, quoi.
Les mesures de soutien gouvernemental doivent veiller à ce que la fracture sociale ne s'agrandisse pas. Or, on s'aperçoit que le nombre de pauvres augmente, le nombre de riches aussi. Il y a donc un problème d'équilibre à retrouver. Une certaine justice sociale me paraît la priorité d'aujourd'hui.
Bon, je trouve que les remarques sont très intéressantes. Hein. Si on regarde, il y a beaucoup de sujets, vous allez voir, qu'on va aborder là, pendant les 3 jours. Je propose à chacun de nos intervenants de réagir en 2 minutes. Il faut aller très vite puisqu'on va vous présenter le sondage sur les Français d'économie. Emeline Baum, qu'est-ce qui a retenu votre attention sur ce micro-trottoir ?
Le niveau de maturité. Spontanément, hein, des personnes interrogées qui utilisent des expressions qui relèvent plutôt du champ politique ou des politiques publiques.
Moins de 2 minutes.
Ah, bah, parfait, comme ça laisse du temps aux autres.
André Ajos.
Oui, je partage, c'est un panorama assez complet et on voit à la fois une prise de conscience de ce qui a été fait pendant la crise sanitaire et également des défis à venir. Moi, les deux points que je retiens, c'est d'abord la première chose, c'est de dire que les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire étaient les bonnes. On a eu un soutien massif à l'économie. Et on mesure l'efficacité de ces mesures aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu d'effondrement économique. Et c'est vrai qu'en tant que banque, on a joué aussi ce rôle de soutien à l'économie par les prêts garantis à l'État, de l'État, en les instruisant et en les débloquant de manière rapide. Dans les défis, moi, ce que je retiens, notamment dans les dernières prises de parole, c'est le défi de l'environnement et de la transition écologique. C'est des choses qui existaient déjà avant la crise sanitaire, mais on a l'impression que la crise sanitaire a été un accélérateur et que pour beaucoup d'entreprises, finalement, au moment où ils ont eu un effondrement de leur business model, ils se sont posés aussi la question des fondamentaux et de la question de savoir ce qu'attendaient les consommateurs. Et on le voit par ces prises de parole, on attend plus de local, plus de durable, plus d'écologie.
Merci. Pierre-Olivier ?
Alors attention, c'est Oliver. Donc non, moi ce que je retiens, c'est un petit peu comme vous, toute la première partie sur notamment toutes les aides qui ont été déployées par l'État. Mais c'est vrai que nous aussi, les collectivités, nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le président Laurent Wauquiez, on a mis en place tout un tas de dispositifs pour accompagner notamment les différents commerces qui pouvaient être en difficulté. Et je sais que la métropole de Lyon l'a également fait. Et là, on voyait bien finalement que les collectivités locales et je dirais le service public au sens large venaient en appui du monde économique qui était en difficulté à cette période-là. Et je pense que c'est aussi notre rôle. Nous, notre rôle, c'est d'être capable de faire travailler l'ensemble des acteurs en commun. Et là, précisément, on avait l'opportunité de le faire.
Merci. Je voulais juste faire une remarque quand j'ai vu ce micro-trottoir. C'est la crainte de l'injustice sociale, quand même, qui est très forte derrière tous les messages qu'on entend. Et l'idée, quand même, c'est qu'on est en train de sortir d'une crise. Ce serait assez terrible qu'on aille vers un monde pire que celui qu'on a connu. Et créer une société désirable semble vraiment être un projet important. Pour qu'on puisse créer cette société désirable, on voit qu'il y a un besoin de justice et surtout aussi d'éducation. Je pense que beaucoup font remarquer qu'il faut que l'école, qu'il faut que les jeunes, qu'il faut que l'accès à l'emploi soit amélioré. Je pense que cette dynamique-là d'une société réellement qui soit dans un mouvement positif est un véritable enjeu. On va le retrouver à travers les conférences. Et on va passer maintenant au sondage. Julia Sestieri de la Banque de France va nous présenter en 3 étapes les résultats. Vous allez voir que les Français ont dit beaucoup de choses sur la situation et on réagira aux réponses qui ont été données.
Bonjour. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici à nouveau en présentiel à Lyon avec vous. Donc effectivement, je vous présente le sondage Les Français et l'économie, que la Banque de France fait réaliser tous les ans pour les GECO. Juste un petit rappel méthodologique, donc c'est un sondage qui a été fait par téléphone début octobre sur un échantillon de 1005 individus majeurs qui représentent la population française selon différentes caractéristiques. Donc, il y a 3 parties, on va interagir avec les autres intervenants sur scène. Donc, pour l'instant, je vous présente la partie sur l'intérêt des Français pour l'économie et les grands défis, et après, je passerai aux autres plus tard. Donc, une première question, c'était quels sont, selon vous, les 2 principaux sujets d'économie sur lesquels vous aimeriez être mieux informés ? Donc, cette année, il y a 3 thèmes qui ressortent, c'est le financement des retraites, les finances publiques et l'inflation. C'est des thèmes, le premier n'était pas là l'année dernière, donc c'est une nouveauté, c'est compliqué donc de faire vraiment des comparaisons avec 2020, mais on voit qu'on est dans une phase différente de l'année dernière, on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte, on est dans et maintenant comment on va faire pour gérer les finances publiques, comment on va faire pour financer les retraites dans un contexte de vieillissement de la population. On est aussi dans un moment où l'inflation réparte, on en parlera plus tard, donc c'est vraiment 3 sujets d'actualité. Et par rapport à l'année dernière, on voit les flèches en rouge. En fait, les sujets qui ont perdu plus d'intérêt, c'est l'emploi et la croissance et l'activité économique, parce qu'on est dans une phase de reprise économique assez forte, alors que l'année dernière, on était en plein crise pandémique. Les 2 prochaines questions, c'est des questions récurrentes qu'on pose tous les ans. On voit que finalement, les scores sont assez stables l'un sur l'autre. On pose aux Français, déjà la question, est-ce que vous êtes intéressé par l'économie ? On voit qu'il y a plus ou moins moitié des Français qui nous disent d'être intéressés assez ou beaucoup, et l'autre moitié qui sont peu ou pas intéressés. On retrouve d'une année sur l'autre les clivages un peu toujours les mêmes. En fait, les gens qui s'intéressent le plus à l'économie, c'est les plus âgés, donc les retraités, les gens avec des revenus plus élevés, des diplômes supérieurs. Malheureusement, ce qu'on retrouve dans les gens qui s'y disent peu ou pas du tout intéressés, c'est les très jeunes, donc les 18-24 ans, à 66%, nous disent n'être pas très intéressés par l'économie. Et pareil pour les 25-34 ans, donc il y a une marge de manœuvre très forte à faire de pédagogie économique, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour faire comprendre finalement aux jeunes que l'économie, c'est leur vie de tous les jours, et donc c'est important de s'en occuper. Aussi une question récurrente sur comment les Français jugent leur niveau de connaissances en économie. On retrouve des scores stables. La moitié des Français jugent avoir un niveau moyen de connaissances et il y a juste une minorité, 15%, qui pensent avoir des connaissances qui sont assez élevées ou très élevées. Je rappelle, c'est des choses, des scores qu'on retrouve plus ou moins tous les ans. Qu'on voit. Passer aux questions un peu plus intéressantes qui recoupent un peu avec le micro-trottoir qu'on a vu tout à l'heure, on posait une question sur les défis socio-économiques. Donc, on avait une liste et on leur demandait de choisir 2 dont il faudrait s'occuper de manière urgente. Et cette année, c'est peut-être sans surprise, mais c'est le changement climatique qui l'emporte, mais très fortement. Donc en bleu foncé, vous avez 44% des Français qui l'indiquent comme le défi principal, en deuxième position 15%, donc au total 59% des réponses. C'est une hausse très forte par rapport à l'année dernière où il y avait 28% des Français qui pensaient que c'était un défi prioritaire. Devant l'exclusion sociale et la pauvreté qui est quand même citée par 41% des réponses. Et on voit que, comme je disais, le moment est différent. L'année dernière, en octobre, on était à la veille d'un deuxième confinement, en plein crise pandémique. Et l'année dernière, c'était donc le chômage et les risques sanitaires et leurs conséquences économiques qui étaient cités en premier. Cette année, ils sont jugés moins importants dans une phase de reprise assez forte. On demande après aux Français quels sont les acteurs publics et privés que vous pensez être les mieux placés pour s'occuper de ces défis que je viens de citer. Là, je vous présente juste les réponses pour les deux premiers, le changement climatique et l'exclusion sociale et pauvreté, mais les réponses sont plus ou moins les mêmes pour tous les défis. En fait, selon les Français, c'est l'État qui apparaît systématiquement comme l'acteur le mieux placé pour s'occuper des différentes priorités, bien devant les collectivités locales, les citoyens, l'Europe ou les entreprises. On voit ici parfois un petit méconnaissance aussi sur les différentes missions des différents acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui sont mieux placés que l'État pour résoudre certains de ces défis, mais bon, au vu de Français, c'est l'État l'acteur principal. Nouvelle question qu'on a posée cette année, on a demandé aux Français, selon vous, la France, quels sont les risques majeurs auxquels la France est le mieux préparée ou le moins bien préparée. Donc là, vous voyez un bleu, c'est les réponses pour le mieux préparé, première ou deuxième réponse, et un rose foncé pour le moins bien préparé. Et on vous a mis à droite le score différentiel entre les préparés et non préparés. Donc on voit que, selon les Français, la France est maintenant préparée à une crise sanitaire et de manière aussi un peu plus surprenante à une fracture numérique. Je pense que c'est dû au fait que pendant la crise Covid, on s'est mis un peu plus tous en nouvelles technologies, en télétravail, à champ en ligne. Donc, on le voit comme un sujet un peu plus proche que l'été il y a quelques années. Par contre, c'est clair que pour les Français, la France n'est pas bien préparée à une crise migratoire et un réchauffement climatique. Et voilà, ça revient sur le réchauffement climatique et les enjeux climatiques qui sont présents tout au long de ce sondage, aussi dans le micro-trottoir qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, sur la question des risques climatiques, on leur a proposé trois solutions. On leur a demandé de dire, selon eux, quelle était la meilleure solution pour lutter contre les risques climatiques, entre une réglementation plus contraignante, donc en fait, qui interdise ou limite les productions les plus polluantes, ou des subventions de consommation financées par taxes, ou une augmentation des taxes. Et là, on voit clairement, pour la majorité des Français, la lutte doit passer d'abord par une réglementation plus stricte de la production, et il ne soutient pas forcément toutes les solutions ayant recours à des taxes.
Merci pour cette présentation, une première partie, et j'ai envie tout de suite de poser les questions à Emeline Boom sur... les défis sociaux, en tout cas, qui sont prioritaires pour les Français, sur est-ce qu'on est bien préparé pour gérer les risques ? Et on voit aussi quels sont les moyens qui seraient privilégiés pour lutter contre les risques environnementaux.
Alors, je rebondis sur ce que vous indiquez, c'est-à-dire que à la lecture du sondage, on prend vraiment pleinement conscience du rôle qu'on a les élus locaux à faire de la pédagogie et de l'éducation à la citoyenneté pour que chacun, chacune soit en capacité de prendre conscience de qui porte les politiques sociales, par exemple sur la lutte contre l'exclusion, et à quoi sert la réglementation. Parce qu'on voit que spontanément, sur le défi climatique, la réponse c'est il faut cadrer, il faut réglementer. Et dans le même temps, on sait très bien que si on contraint les entreprises et donc par effet domino les habitantes et les habitants, on a un gros risque de non-acceptabilité, voire même d'expression publique sur espace public de façon durable, hein, des manifestations type gilets jaunes. Donc ce que j'ai envie d'amener tout de suite, c'est quelque chose que je pose toujours dans le débat public, c'est l'éducation à la citoyenneté, d'avoir pleinement, pour être une habitante, un habitant qui agit en conscience, avoir pleinement la connaissance de qui fait quoi et avec quelle recette, et ça nous permet de repositionner de la juste fiscalité pour la justice sociale qui n'est pas du tout présent pour le coup dans le sondage, mais qui était bien présent dans le micro-trottoir.
Quand on parle d'éducation, vous savez, on essaye de sensibiliser au maximum les jeunes. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup dans la salle, parce qu'il nous arrivait quand même quelque chose de difficile, c'est qu'on est en plein dans les vacances scolaires. Je ne l'ai pas choisi. Un enseignant qui est obligé de vous faire une manifestation dans les vacances scolaires, je vous assure que c'est quelque chose qui est déjà difficile. J'espère que vous êtes quelques-uns quand même, parce qu'en effet, c'est d'abord, on le voit bien dans le sondage, les jeunes qui sont peut-être les plus concernés, parce que c'est vous qui allez transformer la société, et vous allez la transformer en repensant l'économie. C'est vous qui le ferez. Donc, c'est un peu un non-sens, mais je vous promets que l'année prochaine, on le fera en dehors des vacances scolaires, et on regardera ce que vous avez commencé à transformer. Deuxième question que je voulais poser ici à Pierre-Olivier. On voyait qu'il y avait des choses sur les institutions Et entre autres, quelles sont les institutions qui sont les mieux placées pour s'occuper des problèmes urgents? J'ai l'impression qu'on a un peu là des réponses traditionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, déjà, je pense qu'il y a, plusieurs choses. Les institutions sont bien placées, évidemment, et on le voit, le sondage, dans l'opinion des personnes qui ont été sondées, c'est à la fois l'État et à la fois les collectivités qui sont les mieux placées pour pouvoir répondre aux différentes urgences. Après, on a aussi entendu dans le micro-trottoir tout à l'heure quelqu'un qui nous disait la décroissance, c'est quelque chose qui pourrait être bien, c'est quelque chose qui pourrait être bien vu. Ben, moi, je pense totalement l'inverse. Un, on ne peut pas tout attendre de l'État et pas tout attendre des collectivités locales non plus. À un moment donné, je pense que c'est les entreprises qui doivent prendre le lead. On le voit bien aujourd'hui, tous les progrès techniques et toutes les innovations que l'on a, elles viennent quand même majoritairement des entreprises. Et pour que les entreprises arrivent à réussir à faire de l'innovation et à travailler sur différents sujets, ben, il faut bien qu'ils aient des capitaux et des revenus. Et donc, par définition, de la croissance. Les collectivités sont là pour accompagner. Les collectivités sont là pour mettre en place des dispositifs. Nous, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, on met en place un dispositif pour relocaliser un maximum d'industries dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que précisément, derrière, vous aurez aussi un intérêt à avoir moins d'émissions de CO2 en faisant venir des produits de Chine ou d'autres pays. Et ça, précisément, c'est des mesures qui sont incitatives. Mais attention, je pense qu'une fois de plus, on ne doit pas tout attendre de l'État et des collectivités. On le voit bien, aujourd'hui, l'État, sur tout un tas de sujets régaliens, a beaucoup de mal à répondre. Je pense par exemple à la question de la sécurité. Et donc, précisément, là-dessus, il faut qu'on soit vigilant à tout un tas de sujets.
Oui, reste quand même que souvent on pense en premier à l'État. J'ai l'impression que parfois on est un peu en retard sur le rôle des territoires et de la société civile. Je pense qu'en fait, dans cette société qui émerge, il y a un triangle. Il y a l'État, il y a les territoires, il y a la société civile, il y a les acteurs privés et publics, hein, bien sûr, qui viennent ici interagir. Et je pense que cette idée de société civile et de territoire, il va falloir la renforcer parce que le changement climatique, à mon avis, devra d'abord être porté, assimilé, intégré à ce niveau-là.
Je peux faire un tac au tac. Il y a une très bonne émission sur le service public avec des maires de couleurs politiques différentes il y a quelques jours, dont le maire de Chamonix, la maire de Poitiers et le maire de Dunkerque, qui revenaient sur ce sujet de finalement... ça se joue beaucoup sur le territoire, les solutions pour faire face aux défis carbone et aux défis biodiversité. Pourquoi ? Parce que ça favorise l'acceptabilité sociale. En fait, il faut le vivre, le penser, l'innover ensemble. Et ça semble, je dis bien ça semble humblement, assez compliqué que l'État indique à des territoires qui sont extrêmement différents en termes de ressources et de capacité d'agir, de dire vous faites comme ci, vous faites comme ça. Ceci étant dit, ce qui ressort très clairement du micro-trottoir et du sondage, c'est pour ça que j'insiste sur l'éducation à la citoyenneté, c'est ce point de repère qu'on a peut-être lié à notre modèle social, que l'État peut tout, un peu ce que dit Pierre Oliver, et finalement cette méconnaissance de ce qu'on met au pot du collectif, chacun en tant que famille, en tant que foyer, et ce que ça produit. Je rappelle que les élus, et le président de la République n'y échappe pas, les ministres non plus, sont redevables devant les habitantes et les habitants, et je pense qu'il y a très peu d'explications de l'usage en fait des taxes et impôts, et du coup il y a un rejet spontané, alors que finalement ça crée aussi du commun, ça crée notre modèle social de solidarité qu'on n'a pas sur d'autres territoires, et parfois on l'oublie un peu quand même dans le débat collectif.
Oui, c'est vrai que visiblement on attend plus des réglementations.
Oui, voilà.
Comme solution, et on peut se demander si ça suffira de mettre plus de réglementations pour faire une transition. On passe à la deuxième série de questions. Bien, Julia.
Oui, alors la deuxième partie du sondage porte sur les questions du niveau de vie et pouvoir d'achat des Français, avec deux questions qui sont assez... Ça marche ? Excusez-moi. Voilà. Alors, la première question, c'est sur la perception d'inflation. En fait, on demande aux Français, selon vous, le nouveau moyen des prix, comment il a évolué depuis un an. Non, je suis sur l'autre. Voilà. Alors, cette année, on s'aperçoit qu'il y a une forte majorité de gens qui ressent une augmentation des prix de 2% ou plus. Donc, c'est 67% par rapport à 47 l'année dernière. En effet, c'est cohérent avec les derniers chiffres d'inflation. On vous a mis dans le petit carré à haut à droite l'évolution des prix connus au moment du sondage. C'était l'inflation donc, en France de septembre 2021, c'était 2,7. En octobre, on est passé à 3,2. Effectivement, l'inflation supérait à 2%. Mais il faut aussi garder en tête que les Français, en général, ils ont une perception d'une inflation supérieure à l'inflation réelle. Ce n'est pas le cas cette année, mais l'année dernière, vous voyez, ils indiquaient une inflation supérieure à 2% à 47%, alors que l'inflation était zéro l'année dernière. Et quand on passe à la question sur comment vous anticipez l'inflation à un an, on voit que finalement, les réponses sont exactement les mêmes que celles de la diapo précédente, c'est-à-dire que les perceptions d'inflation sont très corrélées à la perception d'inflation d'aujourd'hui, avec les mêmes scores que pour l'inflation passée. Une autre série de questions, c'était sur les postes de dépenses dans le budget annuel des Français. Donc, on leur demandait de citer les deux principaux postes selon eux. Donc, on voit qu'il y a un trio de réponses, le logement, l'énergie et l'alimentation, avec des scores assez similaires, les scores totaux sur le premier et deuxième poste. Bien devant, les loisirs, l'équipement de la maison, les frais liés aux études des personnes rattachées au foyer. Il faut dire que là, il s'agit d'une perception, hein, parce que si on prend le panier des biens et services qui est utilisé, par exemple, pour l'indice des prix à la consommation, les poids sont différents. L'énergie est à hauteur de 7%, l'alimentation 25% et les services qui ne sont pas très cités ici, c'est 47% de notre panier de biens moyen. Hein. Après, chacun a son propre panier, mais le panier moyen des Français. Et on voit aussi des différences énormes selon le type de population. Alors, par exemple, pour les jeunes et les gens habitant en région parisienne, le logement est cité à hauteur de 80% des réponses. L'énergie est très citée par les gens âgés de plus de 65 ans. Et on voit que, par contre, les très jeunes, 18-24, citent les loisirs, les voyages comme un des postes de dépenses à 40%. Donc, en fait, voilà, chacun a son panier. Et après, on leur demande aussi, selon vous, quels sont les deux postes de votre budget annuel dont les prix ont le plus fortement augmenté depuis un an en France. Et là, c'est un photo, c'est l'énergie, 80% des réponses. Et c'est bien vrai, parce qu'en fait, là, à droite, on vous a mis la variation des prix au cours des 12 derniers mois, relevée en septembre 2021. Il y a bien une hausse forte des matières premières, de l'essence, de l'énergie en général. L'alimentation, qui est citée aussi comme deuxième poste, a connu une petite hausse. Dernière question de cette série, c'était sur les crédits aux ménages. On leur a demandé s'ils pensent que c'est un sujet de préoccupation aujourd'hui. On leur a donné plusieurs possibilités et une majorité, 37% des Français nous ont dit que le surendettement des ménages reste un motif de préoccupation devant les critères de sélection que les banques fixent elles-mêmes et qui peuvent restreindre le crédit. Devant les démarches excessives des offres de crédit à la consommation, il y a juste une partie, petite partie des répondants qui indiquent les contraintes réglementaires qui empêchent les banques de prêter. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la Banque de France, qui est un régulateur. Mais je voulais aussi passer une minute sur le surendettement. En fait, c'est vrai que c'est cité comme un sujet de préoccupation. Mais les derniers chiffres disponibles de la Banque de France, ils nous indiquent effectivement qu'on n'a pas connu cette hausse du dépôt de... des surendettements qu'on pouvait s'imaginer après la crise. En fait, on est dans une baisse tendancielle depuis 2015. On sait qu'en 2020, il y a eu une baisse très très forte des dossiers de dépôt de dossiers de surendettement de 25%, qui était peut-être lié aussi à des problèmes matériels de dépôt pendant les lockdowns, pendant le confinement, mais aussi au fait que il y a eu des aides publiques très fortes qui ont soutenu le revenu des ménages. Donc on pouvait s'attendre à une boule de neige l'année prochaine, donc en 2021, ce qui n'est pas le cas. Donc en septembre, on voit une baisse par rapport au début de l'année, mais même par rapport à avant la crise Covid. Et la Banque de France ne s'attend pas à une très forte hausse dans les années à venir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle et peut-être un peu une surprise. Pendant les journées de l'économie, on parlera des entreprises zombies. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas de ménage zombie. Donc, en fait, des deux côtés, il y a peut-être en effet une capacité là, de résilience, dont on va parler tout à l'heure, qui est assez intéressante. Si on revient là sur les réponses qui nous ont été données, je voulais demander à Andréa Joss quelle est sa réaction aux questions sur l'inflation, quand on demande aux Français à peu près ce qu'ils perçoivent de l'inflation, et de cette fameuse crainte du surendettement qui pourtant semble ne pas être confirmée.
Alors sur la partie inflation et pouvoir d'achat, le paradoxe qu'on a eu quand même pendant la crise sanitaire, c'est qu'on a été face à une récession quand même historique et que ça n'a pas eu d'impact sur le pouvoir d'achat parce que les mesures budgétaires qui ont été mises en place, notamment par le chômage partiel, mais également la baisse des prix de l'énergie à ce moment-là, ont fait qu'on n'a pas eu de sujet sur le pouvoir d'achat. Et que le sujet maintenant sur l'inflation revient de manière depuis quelques mois, notamment lié aussi à l'augmentation du prix de l'énergie, qui explique quand même une grosse partie de l'augmentation de l'inflation. Sur l'inflation, les sujets que ça pose, c'est d'abord de savoir si cette inflation est conjoncturelle. Et la Banque centrale européenne a tendance à dire que sur 2022, finalement, on reviendra à une inflation qui sera moins forte. Le deuxième sujet que cela pose, c'est bien sûr de savoir quel est l'impact de cette inflation sur la reprise économique, parce que c'est par la consommation aussi qu'on aura de la reprise économique, et qu'aujourd'hui, on voit que le moral des Français sur octobre est plutôt en berne, parce qu'ils anticipent beaucoup cette inflation, sachant que par rapport aux autres pays européens, l'inflation qui est affichée par la France est quand même inférieure. On voit qu'en Allemagne et en Espagne, l'inflation est bien supérieure. Et le troisième sujet que cela pose, et ça rejoint aussi cette question de surendettement, c'est plus une question de redistribution de l'épargne, parce que pendant la crise sanitaire, on a quand même eu des ménages qui ont beaucoup épargné. En revanche, cette épargne s'est faite sur des ménages plutôt aisés. Et on voit qu'aujourd'hui, l'augmentation du prix de l'énergie va peser de manière très forte sur les ménages les plus modestes. Et c'est là où on voit que les mesures que prend le gouvernement, notamment par les chèques inflation, c'est effectivement d'essayer de redistribuer une partie de la richesse vers les ménages les plus modestes pour soutenir. Donc sur le surendettement, nous on a un peu la même analyse que ce qu'on voit à la Banque de France. C'est vrai qu'on regarde aussi comment évolue notre clientèle de particuliers, et qu'aujourd'hui on a quand même en tendance, on est en termes de dossiers, etc., de surendettement, ça reste extrêmement faible. La question c'est de savoir est-ce que ça va continuer comme ça sur 2022 ou est-ce que ça va remonter à un moment ou à un autre.
Merci. Au passage, ce qui est assez intéressant, c'est que l'inflation, c'était un sujet qui semblait être bien maîtrisé par les économistes. Ils ont beaucoup écrit depuis au moins une quarantaine d'années sur le sujet. Et qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'interrogations sur mais ce mécanisme de l'inflation, est-ce qu'il est différent, qu'est-ce qui va se produire? En fait, l'interrogation que vous avez, beaucoup d'économistes sont obligés de regarder leur schéma d'analyse pour se demander s'ils sont encore pertinents et si on va réellement vers une situation où on pourrait avoir une accélération de l'inflation. Pour ceux qui font un lien, entre autres, entre la masse monétaire et les prix, vous devriez être très très inquiet parce que la quantité de monnaie banque centrale qui a été créée pendant la pandémie, elle est gigantesque, mais on ne la voit pas au niveau de l'inflation. Donc en fait, les canaux par lesquels circule la monnaie, par exemple, aujourd'hui, est un véritable sujet passionnant à regarder parce que ça génère des réactions économiques qui ne sont pas celles auxquelles on était habitué. Ça vaut certainement le coup de réfléchir dans les conférences des journées de l'économie sur le sujet. L'autre question que j'avais là, c'est sur le budget des ménages. Et je voulais demander à Pierre Olivier qu'est-ce qu'il en pense des réponses ici sur ce budget des ménages, et entre autres, évidemment, avec ce poids du logement qui semble quand même être une des grandes caractéristiques des réponses.
Alors, encore une fois, c'est un sujet qui est très large. Je vais essayer d'être plutôt synthétique. Déjà, la première remarque qui me vient. Et sur lequel finalement on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, je pense que la première mesure qui peut permettre aujourd'hui d'augmenter le pouvoir d'achat à notre échelon, je dirais local, c'est une bonne gestion des collectivités locales. Nous on le voit à la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a fait des économies sur tout le premier mandat, l'agence Standard & Poor's nous a même relevé la note, et ce qui derrière nous a permis de ne pas augmenter la fiscalité. Et ça, je pense que c'est une mesure qui est essentielle pour le pouvoir d'achat des ménages. La question sur le logement, qui est revenue assez largement dans l'enquête. On est dans une métropole, par exemple à Lyon, où on le voit, on a l'équivalent de 15 000 habitants qui arrivent chaque année sur le territoire métropolitain. Ces gens, aujourd'hui, il y a besoin de les loger, il y a besoin de leur fournir une offre en logement. Aujourd'hui, le problème que vous avez en face, c'est qu'en bloquant la construction, ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, ben on voit qu'on a l'équivalent de 3 000 à 3 500 logements par an qui sont construits dans le périmètre métropolitain, alors qu'on aurait besoin d'avoir entre 8 et 10 000 logements construits par an. Et donc là-dessus, vous avez quoi? Vous avez une hausse impressionnante, pour ne pas dire exponentielle, des prix à l'achat. Alors là, il y a une mesure qui a été mise en place par la métropole et la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne sur l'encadrement des loyers. Mais alors attention, c'est un petit peu en trompe-l'œil, parce que la réalité, c'est que derrière, vous le savez comme moi, les gens qui demain vont venir apporter un dossier dans une agence immobilière pour louer un appartement, vous savez comme moi que ce sera le dossier qui sera, je dirais, le plus solide, avec les gens qui ont le plus de revenus, qui seront systématiquement choisis. Et là encore, on en revient au même problème, ce sont toutes les personnes qui sont situées au milieu, toute la classe moyenne, qui, elle, aura encore plus de mal à se loger. Donc sur le logement, aujourd'hui, je pense que la solution, c'est précisément de construire beaucoup plus de logements, de densifier le centre, quand je dis le centre, en réalité, c'est Lyon, Villeurbanne, les villes qui sont, je dirais, à proximité des transports en commun, et qui, derrière, nous permettent aussi de pouvoir utiliser précisément ces transports pour limiter aussi l'impact des voitures et les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il y a eu aussi un autre sujet sur l'énergie. On le voit bien aujourd'hui, l'énergie est une question centrale. Et c'est vrai que quand on voit un petit peu aujourd'hui toutes les réflexions qu'il y a contre le nucléaire, entre autres, bah précisément ça va être un sujet supplémentaire quand on met en lien les deux sujets entre la volonté de décarbonisation de la société et de l'autre, une évolution des prix importante sur l'énergie. Donc là-dessus, il y a beaucoup de réflexions à mener. Et en tout cas, nous, là-dessus, les collectivités, c'est vrai qu'on a tout notre rôle à apporter.
Oui, Emeline, peut-être un mot sur le logement ?
Oui, pour compléter ou pour ouvrir d'autres horizons, vous amener des questions, puisque les GECO, ça sert à ça. Peut-être redire que quand on veut limiter les déplacements subis, ce que Pierre-Oliver pointait, limiter la mobilité et de fait des gaz à effet de serre, il faut peut-être faire le choix, c'était un truc à la mode dans les années 80-90, de la multipolarité. Bon, il se trouve que c'est le choix qu'a fait la métropole de Lyon de dire, grâce à un objet économique qui s'appelle l'Agence de développement économique du territoire, la DERLI, de la région lyonnaise, de dire voilà, nous on coopère avec Saint-Étienne, avec Roanne, avec Bourgoin, l'île d'Abo, etc., pour que des entreprises se positionnent sur ces territoires qui ont des logements vacants, je l'indique. Donc on a un mécanisme de solidarité territoriale au travers de la DERLI, hein, qui, je rappelle, est financé essentiellement par la métropole de Lyon et la CCI. Donc on est complètement OK pour se dire que, alors c'est, on n'a pas exactement les mêmes chiffres, mais ces fameux 10 000 habitants qui arrivent sur notre territoire tous les ans, c'est plutôt 10 000 que 15, mais je veux bien revoir mon chiffre. Et bien peut-être que demain, ce seront 8 000, 7 000, 6 000. Les gens sont libres. Ceci étant dit, nous, on a un enjeu global à ce que la grande région urbaine lyonnaise soit attractive, que Saint-Étienne garde ses talents et ses compétences et en attire, que Roanne garde son tissu industriel et en attire, que Villefranche soit une ville moyenne équilibrée et que des familles puissent s'y épanouir, parce que nous, on a un devoir qui est, un, de construire du logement social pour tous, et pour le coup, on tient le rythme, et deux, d'offrir des aménités, donc par exemple de la mobilité, des transports en commun, partout sur le territoire, en particulier sur l'Est, qui est le point de développement du territoire, c'est pas la zone centre, c'est l'Est. Or, l'Est a été complètement abandonné par le passé en termes d'offres de mobilité, il y a un gros rattrapage à faire. Vous voyez, l'équation, elle est pas... On se donne rendez-vous dans un an, deux ans pour voir l'impact sur l'encadrement des loyers. J'amène juste le sujet de la multipolarité qui permet de rééquilibrer le territoire à l'intérieur et sur les territoires extérieurs qui, par le passé, vivaient beaucoup en mode attraction-répulsion.
Oui, et alors j'ajouterais, moi, sur le logement, c'est que c'est souvent perçu comme une dépense contrainte, donc qui pèse très lourd dans le budget, parce qu'on ne la choisit pas réellement. Donc, on n'aime pas ne pas choisir, vous le savez tous. Mais en plus, il y a des choses qui vont changer là, quand même, radicalement. Le logement devient un lieu de travail, il y aura une partie de télétravail, ça devient un lieu d'éducation où le fait d'être connecté est un élément déterminant pour les enfants, pour leur accès à l'éducation. Je pense aussi pour l'harmonie familiale, tout simplement d'avoir l'espace, spécialement si on repasse par des périodes de confinement, car on aura d'autres crises et d'autres problèmes où le logement sera peut-être notre principal lieu de repli pour vivre au moins dans un cadre qui soit le plus agréable possible. Du coup, le logement certainement est en train de changer de statut, que ça va être quelque chose dans notre vie et dans le défi environnemental qui est nouveau. On doit tous le penser ensemble. J'espère que ça ne sera pas simplement une contrainte de plus, mais que ça sera peut-être quelque chose qui pourrait nous amener vers la société désirable. Bien vivre chez soi, ça paraît simple, c'est peut-être à réinventer au XXIe siècle. Je passe à la troisième série de questions.
Alors, dans cette série des questions, on a effectivement commencé un petit peu à regarder ce que Pascal disait, l'économie de demain. Alors, on a interrogé les Français sur comment un peu l'économie, selon eux, a changé post-crise Covid, à la fois macro et des questions macro et micro sur leur vie. Donc, on a posé une question sur le concept de croissance de PIB. On donnait plusieurs choix et en fait, un peu... de manière surprenante, disons, une forte majorité, environ 60%, ils nous disent que le concept de croissance du PIB est dépassé. Il faudrait donc se fier à d'autres critères, comme des objectifs de bien-être, ou n'est pas dépassé, mais doit être réorienté vers des activités bas carbone. Et il n'y a qu'un Français sur cinq qui dit que la croissance économique, finalement, est nécessaire pour assurer la prospérité, pour maîtriser l'ensemble des défis, y compris le défi climatique, mais pas que, aussi les défis liés à la démographie, mais aussi à la dette et au déficit public. Et il y a une minorité, 17%, qui pense que la décroissance est finalement nécessaire. Autre question nouvelle, c'était sur le renforcement de l'action de l'État. Quelle est, selon vous, l'action prioritaire ? Et on a 24% des Français qui nous disent que l'éducation nationale est prioritaire devant la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des inégalités. Donc on voit que c'est un sujet très débattu maintenant, à la fois dans la révalorisation des salaires des professeurs, de renforcer l'école. Mais je pense aussi, mon point de vue, c'est un peu un message d'espoir. En fait, on sait que des jeunes mieux informés, mieux éduqués, finalement, ils vont peut-être résoudre tous les autres défis. Et on sait maintenant aussi combien c'est important pour les jeunes d'aller à l'école, à l'université. Dans la génération Covid, on a des études qui nous disent que finalement, les conséquences à long terme peuvent être fortes sur leurs propres revenus et bien-être du fait de ne pas avoir eu accès à l'école comme dans les temps normaux. On passe à des questions maintenant plus micro. Donc, en fait, on leur demande aux Français, durant la période de crise sanitaire du Covid, quel est le changement le plus durable dans votre vie courante ? Donc, de manière plus surprenante, 44% des Français, ils nous disent aucun changement est durable. Mais en tête quand même des changements qui restent, selon eux, un peu à long terme, il y a les nouvelles modalités d'achat. Donc, effectivement, plus d'Internet dans notre vie et plus de paiements digitaux. Et aussi le recours significatif au télétravail, qui est cité par 25% des réponses, bien devant tous les autres, comme le changement d'emploi, la mobilité géographique. Et sur le télétravail, on a interrogé les actifs, qui sont la moitié de notre échantillon. L'année dernière, il y avait 31% des Français qui nous disaient avaient eu recours au télétravail. Cette année, c'est 40%. Mais pour la plupart, c'est un mode de travail qui était temporaire parce que presque la moitié d'entre eux, 17%, nous disent qu'ils ne font plus recours au télétravail maintenant. Et 23% des Français ont eu recours au télétravail et continuent à la pratiquer à hauteur de... un jour, deux jours, ou plusieurs jours par semaine. Là aussi, il faut savoir, c'est des chiffres qui masquent des situations très différentes. On sait qu'il y a des secteurs comme la communication, l'informatique, les banques et les assurances qui pratiquent le télétravail encore de manière assez soutenue et d'autres où le télétravail n'est pas possible ou où la mentalité n'est pas encore évoluée dans ce sens. Dernière question sur l'épargne, on en a parlé tout à l'heure. Alors, l'année dernière, il y avait 24% des Français qui nous disaient que pendant la crise, ils avaient pu mettre davantage de côté que d'habitude. Cette année, c'est 34%, donc c'est quand même beaucoup. Effectivement, la Banque de France a estimé qu'en un an et demi, entre début 2020 et la moitié de l'année en cours, il y a 160 milliards d'épargne, de surplus d'épargne. Le surplus d'épargne est calculé comme l'épargne observée, moins l'épargne qu'on aurait eue si les tendances pré-Covid s'est poursuivaient. On estime que ce surplus d'épargne pourra arriver jusqu'à 180-190 milliards à la fin de cette année. Donc ça, c'est quand même une bonne coussin pour la reprise économique, pour la consommation. Et on demande aux Français, donc aux 350 personnes qui nous disent avoir pu mettre davantage de côté, qu'est-ce que vous allez compter faire avec cette épargne ? On leur donnait des possibilités d'une consommation à court terme, dans les 6 prochains mois, à moyen terme, à 2 ans ou à plus long terme. Et cette année, on a introduit aussi la possibilité de répondre qui souhaiterait faire une acquisition immobilière ou un don. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une répartition assez équilibré entre consommation à court, moyen ou long terme. Par rapport à l'année dernière, on avait plutôt soit une perception de faire une consommation à très court terme, soit à très long terme. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a des Français qui ont entre-temps consommé une partie de leur épargne. Et je vous remercie pour l'attention.
Merci. J'aimerais bien avoir la réaction d'Emeline Baume, d'abord sur la position des Français sur la croissance, le fameux débat toujours entre croissance, décroissance, et aussi des domaines prioritaires d'action de l'État. Où est-ce qu'il faut essayer d'agir en priorité ?
Oui, alors ce qui est intéressant dans le sondage, c'est de noter la capacité de réponse spontanée de Françaises et de Français sur... ce qu'on mesure sortir de l'enfermement croissance-décroissance et plutôt dire, c'est ce qui ressort en premier, tiens, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut mesurer en fait, et amener ce sujet de la loi SAS, là, des indicateurs de bien-être. Donc, moi, je trouve ça extrêmement positif. Je pense que c'est la première fois que je le vois dans un sondage. Et après, je le corrèle au débat qu'on a eu juste avant, là, au petit échange sur le logement et l'énergie. En fait, puis c'est présent partout dans les médias en ce moment, le sujet, il est sur une descente matérielle et énergétique. Si on prend en considération la raréfaction de certaines ressources et le fait qu'on ne puisse pas suppléer avec d'autres formes de production d'énergie, et quelque chose d'extrêmement important qui n'y a pas du tout, mais c'est normal, hein, dans le sondage, c'est le rapport que nous avons, nous, on va dire Français, Européens, Hémisphère Nord, avec les besoins des collègues, camarades, on dit comme on veut, habitants du reste du monde, qui, eux, ont aussi un droit à la dignité, un accès à l'eau, à l'alimentation, à la santé, à l'éducation. Et de fait, nos indicateurs de croissance n'intègrent pas ça. Sur le sujet de l'éducation nationale, puisque c'est ce qui ressort là, 24%, je le ramène aussi au micro-trottoir, etc. Donc, dans l'inconscient collectif, en fait, la sphère publique, c'est l'État. Donc, je reviens à mon sujet d'éducation à la citoyenneté, pour que chacun, chacune ait pleinement conscience des leviers qu'il a, en tout cas de ce qu'il accompagne par ses achats, je rappelle la TVA, mais aussi par les taxes et impôts pour celles et ceux qui sont concernés. Et il y a vraiment... alors, je suis contente, pareil, que ressorte l'éducation nationale, une pleine conscience du pouvoir qu'a l'éducation, l'accompagnement formatif, la formation, etc., sur nous autres, les jeunes et les moins jeunes, et c'est ce formidable levier qu'il est pour transformer nos organisations. Et effectivement, moi j'ai envie de poser la question suivante, quand on dit aux Français, ok, à 24%, le sujet c'est l'éducation nationale, d'accord, et qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Et j'amène tout de suite le débat du collège unique pour que demain, les jeunes, les filles et les garçons aient envie d'aller vers des métiers productifs et envie de participer à la lutte contre le dérèglement climatique en produisant, en construisant, en réparant ici et maintenant, plutôt que de faire des tours de bateau ou d'avion ou autre dans le monde pour pouvoir répondre à nos besoins de consommation de base. Donc pour terminer vraiment sur ce sujet croissance-décroissance, je pense que dans les indicateurs de bien-être, il y aurait justement ce sujet du choix pour chacune et chacun. C'est quoi la dignité pour chacune et chacun ? Il y a le logement, l'alimentation, l'énergie, l'éducation, la culture. Et après, les biens de consommation courante, à quel niveau on les met ? au regard de la capacité du système Terre et de la nécessaire solidarité avec celles et ceux qui n'ont pas le niveau de dignité que nous avons collectivement la chance d'avoir ici.
Vous pourrez poser la question à Laurence Boone dans la conférence suivante, parce qu'elle est exactement sur ces sujets. Ils avaient à l'OCDE créé un petit indicateur qui s'appelait Better Life. Eh bien, on continue à chercher cet indicateur qualitatif qui nous permettrait de saisir ces dimensions-là qui sont souvent ignorées par les données statistiques traditionnelles sur la croissance économique. Il y a une autre interrogation qu'on peut avoir quand même là aussi sur ce troisième groupe de questions, c'était les changements qui concernent le télétravail et l'épargne. Et là, je voulais poser la question à André Ajos, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est sûr que sur la partie télétravail, c'est en tant qu'employeur de 3000 personnes sur la région, on a vu le changement qu'il y a eu pendant la crise sanitaire. Après, quand on regarde le sondage, ce qui est intéressant, en fait, le télétravail, c'est quelque chose qui existait déjà avant la crise sanitaire. On a eu un pic à un moment parce que tout le monde s'est mis en télétravail et aujourd'hui, on revient à une situation plus normale. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les pratiques s'intensifient et on le voit bien. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui télétravaillent une journée, voire deux journées, voire plus dans la semaine. Et du coup, au sein d'une entreprise, ça pose des questions au niveau du management qui sont fondamentales et sur lesquelles on est en train de réfléchir, de savoir déjà quel est le lieu de travail des salariés. Donc, c'est bien sûr le siège, mais ça peut également être chez eux, ça peut être dans leur résidence secondaire, dans les tiers-lieux. Quels sont les horaires de travail qu'ils vont avoir, l'équilibre entre leur vie pro et leur vie personnelle, et tout ce qui est santé au travail. Le management qu'on doit mettre en place, parce que manager des gens qui sont à distance et des gens en présentiel, ça emmène d'autres formes d'animation d'équipe. Et ensuite, la culture d'entreprise, parce que comment est-ce qu'on crée de la cohésion, sachant qu'un certain nombre de collaborateurs ne sont pas présents sur site tout le temps. Donc on a toutes ces réflexions aujourd'hui en tant qu'employeur. Et parallèlement, on se dit à plus long terme, il y aura aussi des impacts sur le territoire. Il va y avoir des impacts sur la manière des gens de se déplacer. Il y aura des impacts sur les bassins de vie. Et il y aura aussi des impacts sur l'immobilier tertiaire, sur l'immobilier d'entreprise. On parle beaucoup de flex office. Donc comment est-ce que les entreprises du tertiaire vont gérer le télétravail à long terme sur l'immobilier ? Donc ça, c'est un peu les questions qu'on se pose aujourd'hui, sachant qu'il y a quelque chose d'autre qui émerge, c'est qu'effectivement, il y a des secteurs où le télétravail s'est largement diffusé, d'autres secteurs comme l'industrie qui n'ont pas la capacité à faire du télétravail, et donc on risque quand même aussi d'avoir une certaine fracture au sein des entreprises entre celles qui seront en capacité d'offrir le télétravail et donc répondre aussi à une attente des jeunes hein, qui veulent intégrer une entreprise pour pouvoir faire du télétravail et ceux qui malheureusement ne pourront pas pouvoir offrir cette opportunité-là à leurs collaborateurs. Donc c'est aussi des questions qu'il va falloir gérer sur le long terme.
Merci. J'aimerais bien qu'on puisse conclure là par une petite question à chacun. À votre avis, est-ce qu'il y a un exemple d'initiative sur le territoire qui est intéressant pour imaginer ce que va être le monde de demain, qui est déjà presque le monde d'aujourd'hui ? Pierre-Olivier, je vous signale que c'est une question qu'on n'avait pas préparée.
Alors, des opportunités sur le territoire aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on en a plusieurs, qu'on en porte plusieurs.
Quelle est la plus importante pour vous ?
Pour moi, aujourd'hui, l'initiative la plus importante, c'est celle qui va nous permettre aujourd'hui de produire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Typiquement, j'ai un exemple en tête. On le sait aujourd'hui, on a très peu de chaussures, notamment de chaussures de sport, qui sont produites dans la région. Et aujourd'hui, avec notamment Salomon, on le sait, on a la capacité d'avoir une chaussure qui est produite intégralement en France. Ben ça, typiquement, je pense que c'est un enjeu qui répond à la fois aux interrogations environnementales, aux questions d'emploi et aux questions de relocalisation.
Et ça nous permet de retomber sur nos pieds ? Bon, je vais pas continuer comme ça, je vous promets. Emeline, un exemple aussi, là, vraiment une initiative, un petit exemple concret comme celui-là, qui peut être vraiment intéressant pour
savoir. Un exemple avec un outil pratico-pratique dédié aux entreprises, gratuit, qui a été développé avec des entreprises par la, entre guillemets, puissance publique, c'est-à-dire l'ingénierie des hommes et des femmes qui travaillent à la métropole de Lyon. C'est un outil de mesure d'impact global. Les questions de soutenabilité économique, les questions de viabilité environnementale, les questions de justice sociale et d'inclusion donc par et dans l'emploi, mais aussi les questions de gouvernance, de financement, etc., qui est sur le site internet de la métropole. On l'a lancé au moment de l'événement Polytech il y a quelques semaines. L'idée, c'est de donner cet outil à l'ensemble des entreprises du territoire et au-delà, puisqu'il est gratuit, pour avoir une vision globale en fait, de ce qui se passe dans l'entreprise, du process de production, du positionnement en termes d'accompagnement, de management, de parti pris autour de l'emploi, les seniors, les personnes en situation de handicap, etc. Et derrière, d'avoir la palette d'accompagnement des politiques publiques. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe qu'effectivement, la transformation du territoire pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux, elle se fera par et avec les organisations, et parfois l'acceptabilité sociale, elle arrivera parce que vit un salarié, un collaborateur, une collaboratrice dans son entreprise, plus que parce qu'elle vit en tant qu'habitante, en tant qu'habitant. Donc voilà, moi j'ai l'exemple de cet outil de mesure d'impact.
Ce sera intéressant de faire le bilan dans un an.
Tout à fait, et au GECO.
Oui. Et Andréa Josse, un exemple.
Alors un exemple, et je rebondis par rapport à ce qu'on a vu aussi dans le sondage un peu plus tôt, où on voyait que finalement les Français n'attendent pas que le secteur financier dans le financement de la transition en fait est très faible. Hein, on pense pas que c'est, et moi je considère qu'une banque a aussi un rôle important à jouer dans le financement de la transition écologique. Et nous on le voit beaucoup dans les financements qu'on met aujourd'hui en place sur par exemple l'installation de panneaux photovoltaïques. De plus ou moins grande ampleur, mais donc on est là aussi pour aider à cette transition, et on le voit aussi côté clientèle personnes physiques par tout ce qui est rénovation énergétique, où on a développé un partenariat avec le réseau FIR pour justement et aider aussi à la rénovation énergétique des bâtiments.
Merci pour ces exemples. On va maintenant voir les analyses qui vont être développées dans les conférences que vous allez pouvoir entendre pendant les 3 jours. Vous savez, vous pouvez poser des questions par SMS, et je pense que là, vraiment cette année, vu les sujets qu'on aborde, vous allez envoyer beaucoup de questions et faire que vous soyez dans l'interaction avec les intervenants, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est que vous puissiez, vous, avoir la parole et que vous n'ayez pas des experts qui simplement viennent vous délivrer un discours, mais qui puissent aussi vous répondre par rapport aux interrogations que vous avez. Donc, posez des questions. Et pour ces 3 journées, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir.